France Inter. .fr.
Croire en vous, mais mon cher Alain Baraton.
Pourquoi pas ? Bonjour Patricia, bonjour à tous.
Peut-on dire que la plus belle forêt du monde se trouve au Kazakhstan ?
La plus belle peut-être pas, mais la plus incroyable incontestablement. Cette forêt existe depuis la nuit des temps, mais elle est devenue pittoresque après un séisme.
C'était en 1911 ?
Oui, et la terre a tremblé. Cela n'a rien d'étonnant dans cette région du monde où les secousses sismiques sont fréquentes. Il en a été dénombré plusieurs milliers en un siècle, ce qui est considérable, mais il faut tout de même préciser que l'immense majorité de ces tremblements de terre se fait à peine ressentir. Celui de 1911 affiche une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter, et même si l'on est loin des records enregistrés, les dégâts sont visibles, et en particulier dans une vallée boisée des montagnes Tian, à 130 km d'Almaty, la principale ville du pays.
Et c'est là qu'à cause du tremblement de terre, il y a eu un glissement de terrain ?
Eh oui, et des milliers de tonnes de pierres et de terre obstruent une petite gorge qui permet à un ruisseau de poursuivre son chemin. Il est ainsi formé par ce glissement de terrain, un barrage naturel et l'eau du ciel et du petit cours d'eau ne pouvant plus s'évacuer. Cette petite vallée se transforme en un lac long de 400 mètres et profond par endroits de 30 mètres. Il est aujourd'hui appelé le lac Quindi.
Et alors, on imagine que les arbres qui vivaient là ont été submergés par l'eau.
Eh oui, et comme vous le savez, le bois dans l'eau est imputrescible. Ouais. Et il est toujours possible d'apercevoir l'extrémité des arbres émergés, comme les mâts d'un bateau dressé vers le ciel. Mais le vrai spectacle est en dessous. La température de l'eau n'excédant jamais les 6 degrés, même en été, les épicéas ont conservé leur feuillage, même si le phénomène s'est produit il y a plus d'un siècle. Les adeptes de la plongée sous-marine, vous vous en doutez, se régalent en observant les poissons se cachaient derrière les troncs d'arbres. Le spectacle est d'autant plus féerique que la clarté de l'eau est telle que même en restant sur la berge, on est saisi par la beauté du site. Mais il est vrai que quand on voit des arbres qui semblent vivants et qui sont sous l'eau, c'est absolument incroyable.
Mmh. Êtes-vous toujours disposé, mon cher Alain, à répondre aux questions des auditeurs ?
À condition que vous me posiez les questions gentiment.
Alors, gentiment. Geneviève nous écrit la chose suivante. Nous venons d'acquérir une maison où de la toile géotextile a été mise dans le jardin. En voulant planter des bulbes pour le printemps, je me suis aperçue que la terre sous la toile forme une sorte de carapace et que les plantations s'avèrent difficiles. Je souhaiterais retirer cette toile. Qu'en pensez-vous ? C'est gentil, je leur fais encore plus mièvre.
Non, c'était très bien, je vais donc répondre très gentiment. Vous rappelez que quand j'avais 15 ou 16 ans et que que vous n'existiez pas encore pour moi, mes vieux professeurs m'expliquaient qu'il y avait dans le sol ce que l'on appelle le complexe argilo-humique. Alors, c'est extrêmement compliqué. Tout ça pour vous dire que la Terre, elle vit. Dans la Terre, il y a des mouvements du sol, il y a des structures qui se mélangent, qui se séparent. Il y a des insectes également qui vont manger des végétaux en décomposition, des petits mammifères qui viennent faire quelques galeries, je pense aux taupes. En un mot, que la Terre est vivante. Et quand on met par-dessus une toile dite géotextile, eh bien elle ne vit plus cette terre, elle ne respire plus, l'oxygène ne circule plus, la lumière n'est plus capable non plus.
Elle est asphyxiée.
Eh bien elle est asphyxiée. Et je ne sais pas si le terme est bon, j'allais dire qu'elle se compactise. Je ne suis pas un gars, je n'ai pas votre compétence en la matière, mais voilà, elle devient compacte, ça c'est français, et il est difficile de la cultiver ensuite. Alors, le géotextile est très à la mode pour les talus par exemple d'autoroutes. On va en mettre, on fait des trous, cela permet d'avoir des végétaux qui vont pousser normalement et d'éviter la prolifération autour du végétal de mauvaises herbes. Donc oui, le géotextile peut être utilisé dans certains cas, mais de grâce, pas dans une propriété, certainement pas dans un jardin. Donc que faire ? Eh bien supprimer sans attendre cette toile géotextile, retourner la terre d'une manière intelligente sans aller trop loin en profondeur, donc à une vingtaine de centimètres, faire un apport d'humus si l'on en a du bon vieux terreau de feuilles, et vous verrez que la terre, et c'est ça qui est extraordinaire, reprend rapidement le dessus.
Elle sera contente.
Oui, mais observez, et j'ai toujours été fasciné, dans une ville comme Paris, vous avez un bâtiment qui était en place depuis presque 100 ou 150 ans, et le bâtiment est démoli, et à la place de l'immeuble, un gigantesque trou. Eh bien, quelques semaines après, à peine seulement le début des travaux, il y a déjà des plantes qui apparaissent au fond du trou. C'est assez extraordinaire. Mmh. Les graines sont partout et la terre a une capacité de se refaire. C'est assez stupéfiant.
Jean-Paul nous écrit pour nous dire qu'il a un jardin situé en Corse, en bord de mer, exposé au soleil. Il a un abricotier qui ne donne plus de fruits depuis 2 ans. Je me demande s'il faut l'élaguer ou le couper pour le remplacer par un autre arbre.
Alors déjà, je ne pense pas que notre ami ait un jardin jardin qui ne lui permettent pas de planter d'autres végétaux que l'abricotier, car même si l'abricotier ne donne plus de fruits, pourquoi l'abattre ? On peut peut-être planter d'autres fruitiers à proximité. Et puis surtout, pourquoi cet abricotier est devenu en quelque sorte stérile ? Vous savez, l'abricotier est un arbuste, un arbre fruitier, que dis-je, que j'aime beaucoup, parce que c'est un arbre, on s'imagine quantité de choses à son endroit et beaucoup d'erreurs. L'abricotier supporte les grands froids. Un abricotier...
Vous disiez exactement le contraire l'autre jour quand je vous ai dit que j'avais un abricotier
pas.
À 800
non,
mètres.
Absolument pas. Absolument.
Je vous avais dit
absolument
exactement
pas.
Le contraire.
L'abricotier supporte les grands froids allant de moins 15 à moins 18 degrés. Mais ce que je vous disais, Patricia, et vous ne m'écoutez pas, c'est que
si,
par
je vous
contre,
écoute, bien sûr que
la
je vous
floraison, elle, redoute le froid, d'autant plus qu'elle est très hâtive dans la saison. Un abricotier fleurit en février ou en mars. Et le froid tue la fleur de l'abricotier. Ce qui fait, Patricia, que si vous avez un abricotier en hauteur, bien sûr que l'arbre va pousser, mais de là à obtenir des fruits, c'est une autre histoire.
Je vous dis qu'il y a eu des fruits pendant des années, presque 100 ans,
mais
des fruits absolument magnifiques.
Mais je ne dis pas le contraire. Deuxièmement,
si vous m'avez traité de menteuse.
Mais pas du tout. Deuxièmement... Vous cherchez les coups quand même. Deuxièmement, il y a également les pluies printanières. Lorsque les pluies sont fréquentes, et ça a été le cas je crois cette année en Corse, le cœur de la fleur est balayé, les organes, la semence de la fleur, eh bien malheureusement partent avec les pluies diluviennes, et l'arbre n'est pas capable de fleurir, donc de fructifier l'année qui suit.
Il va falloir répondre à Monique, parce qu'elle habite près de Grenoble, et depuis 2 ans, ses buis sont malheureusement atteints par la pyrale. Mais je voudrais dire aussi que dans C'est au-deux mon amour, tout à l'heure à 14h, Denis Chessou va parler de ce problème avec des scientifiques et en élargissant le sujet aux bienfaits de la plante aussi.
Et Denis Chessou a raison, c'est lancé au de mon amour, je crois.
Oui.
Une émission toujours de très grande qualité. Et juste un petit coup de chapeau à Denis Chessou qui a toujours le don de dénicher les personnalités compétentes pour parler au mieux d'un sujet.
C'est bien... pas comme au 7-9, où oui. On a plus de problèmes.
Oui, mais ça c'est le problème des vieux contractuels. Hein,
quoi. Ben voilà.
Mais c'était quoi votre question ?
Eh ben... C'était la question de Monique. Ses buis sont atteints par la pyrale. Elle les traite avec du Bacillus thuringiensis. Cette année, un de ses figuiers a les feuilles qui sont mangées. Ça fait... Alors ça, c'est encore un autre problème. Mais on traitera peut-être le problème des figuiers demain. Allons-y déjà pour le buis.
Voilà. Alors, le problème de la pyrale, elle s'attaque à quantité de végétaux, mais elle peut éventuellement s'attaquer aux figuiers. Je vous propose d'en reparler demain. Juste en deux mots, journée des plantes au domaine de Chantilly. Aujourd'hui et demain, 200 exposants.
Ça cavale.
C'est la Rolls. La Rolls de l'exposition, c'est les journées extraordinaires. Et puis comment ne pas citer la 11e édition de Flore Automnale, c'est au jardin de la Levrette et c'est dans les Côtes d'Armor.
Vous êtes en retard, merci à la marathon, à demain.